France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, entre ici, Robert Baninter. En ce 9 octobre 2025, jour où l'ancien garde des Sceaux entre au Panthéon, redécouvrons l'histoire de l'abolition de la peine de mort. Aux yeux de la loi, la guillotine est entrée au rayon des souvenirs maudits le 9 octobre 1981, quelques jours après que le Sénat a voté le projet, la promesse de François Mitterrand, l'engagement politique du candidat socialiste élu président. Mais c'est le grand avocat devenu ministre, Robert Badinter, qui a mené et incarné le combat de toutes ses forces, tant il a dû supporter parfois les insultes de la France réactionnaire. Pour l'histoire, l'abolition date des 17 et 18 septembre, deux jours durant lesquels les Français assistent heure par heure en direct au débat à l'Assemblée. Lorsque le 17, Robert Badinter prononce son discours, il fait entrer son pays dans le club des nations civilisées, rien de moins. Notre invité aujourd'hui, François V, rédacteur en chef du magazine Légende, dont le numéro 20 est consacré à Robert Badinter, en partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Romain Weber, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation Marion Lelay et Juliette Gou.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Palais de l'Élysée, 26 août 1981, début d'après-midi. Le Conseil des ministres a duré 3 heures. C'est le plus important depuis l'élection de François Mitterrand, 3 mois plus tôt, parce que c'est celui de la rentrée. Les ministres descendent les marches du perron. Il y a là Pierre Mauroy, Premier ministre, Gaston Defferre, Michel Rocard, Jacques Delors, tous des professionnels de la politique. Mais derrière eux, il y a un homme un peu plus intimidé. Lui n'a jamais participé à aucun gouvernement, il n'a même jamais gagné la moindre élection. Il est pourtant garde des Sceaux, c'est Robert Badinter. Devenu ministre, il a participé à son premier conseil 2 mois plus tôt. C'était la deuxième fois qu'il entrait à l'Élysée. La première, c'était en 1972, pour demander au président Pompidou la grâce d'un condamné à mort qui s'appelait Roger Bontemps. Badinter était son avocat et Pompidou avait refusé. L'accusé avait été guillotiné le 28 novembre 1972 à 4h du matin à la prison de la Santé. Depuis, Robert Badinter est devenu l'incarnation de l'abolition, le plus grand opposant à la peine de mort. Ce qui fait de lui, pour les uns, un grand homme, pour d'autres, le meilleur ami des assassins. Et si, à 53 ans, il a été nommé garde des Sceaux, c'est que François Mitterrand a voulu que ce soit lui qui porte la loi abolissant la peine de mort et personne d'autre. Tout était dit, tout était clair, dit Badinter. Si François Mitterrand était élu, l'abolition était certaine. La peine de mort vacille. Georges Pompidou, puis Valéry Giscard d'Estaing, avaient été pressés de l'abolir. Mais ils n'ont pas voulu, ou pas osé. Dans la logique de son discours de campagne, l'une des premières décisions de François Mitterrand est de gracier un condamné à mort. Il ne manque plus qu'une loi pour rayer définitivement du code pénal l'article 12 qui dit « Tout condamné à mort aura la tête tranchée ». Ce qui permettra au passage à la France de ne plus avoir un président qui, comme un monarque absolu ou un dictateur contemporain de la pire espèce, pouvait décider de la vie et de la mort d'un homme. Le 26 août 1981, en Conseil des ministres, le projet de loi est adopté. La peine de mort n'existe plus dans ce pays, la loi d'Italien non plus. La France vient d'entrer dans la modernité. Et Robert Badinter s'exprime sur France Inter.
Oui, le texte est d'une très grande concision. Article 1er, la peine de mort est abolie.
Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que vous allez à l'encontre de l'opinion actuellement en proposant ce texte au Parlement, vraisemblablement à la mi-septembre?
Le croyez-vous? Le président de la République s'est prononcé très clairement en faveur de l'abolition. Les Français l'ont élu. Puis une majorité de gauche l'a emporté aux élections. Dans le programme de cette majorité était inscrit en clair l'abolition de la peine de mort. Par conséquent, il ne peut y avoir là aucune surprise.
Ça s'appelle la volonté politique. Et rendez-vous est fixé l'Assemblée nationale se prononcera 3 semaines plus tard, les jeudis 17 et vendredi 18 septembre 1981. La France rejoindra alors, et enfin, le long cortège des pays occidentaux qui se sont débarrassés de ce rite moyenâgeux depuis belle lurette. Mieux vaut tard que jamais.
Je vous souhaite un bon jeudi, vous êtes à l'écoute de France Inter, voici le journal avec Pierre Veille.
La peine de mort est abolie, c'est le premier article du projet de loi préparé par le ministre de la Justice, Robert Badinter, un texte qui sera examiné à partir de cet après-midi, 15h, par les députés. Les débats devraient durer 48 heures et seront retransmis intégralement en direct sur FR3, c'est une première.
Jeudi 17 septembre 1981, 7h du matin, Boulogne-Billancourt. Marcel Chevalier éteint la radio et sort de chez lui, comme tous les matins à cette heure-là. Il va au travail dans une imprimerie de Montrouge. 60 ans, grand, massif, visage rouge et cheveux blancs, il porte un pardessus noir et un chapeau. C'est un homme élégant, intimidant même. Il marche vers le métro. Ce matin semble être un matin ordinaire. Pourtant, la loi qui va être votée à l'Assemblée, dans la journée même, va changer sa vie. Devant le métro, il y a un kiosque. Tous les quotidiens font leur une sur le débat qui s'engage. Le matin, titre, la peine de mort à l'Assemblée, la victoire des abolitionnistes. Le Figaro annonce, les Français contre l'abolition. Et Libération, peine de mort pour la guillotine. Marcel Chevalier achète le Figaro, comme d'habitude. En revanche, ça n'est pas dans son habitude, mais cette fois, il achète également Libération, parce que dans ce journal, il y a un article sur lui. Le titre, « Le bourreau à un ouvrier d'imprimerie tranquille ». Pour 3650 francs et 14 centimes par mois, Marcel Chevalier est le bourreau de la République. Et parce que ce n'est pas un métier à plein temps, il travaille à l'imprimerie de Montrouge, où il a gagné le surnom de « coupeur de tête », bien sûr. Alors parfois, pour s'amuser, il attrape ses collègues par le col et il leur dit « Ouh, vous avez un joli coup, vous ». C'est là qu'on apprend que le népotisme sévit chez les bourreaux, car l'homme dont nous parlons est le gendre du bourreau précédent. Son beau-père a été contraint de céder son poste. Avec la maladie de Parkinson, ses tremblements étaient devenus problématiques dans le maniement de la guillotine. Un coup a raté son coup, enfin, celui des condamnés. Chevalier, devenu unique bourreau en France, a exécuté 2 hommes, Jérôme Carin et Amina Djandoubi. Quelques jours avant ce 17 septembre 1981, 2 journalistes de Libé viennent chez lui. Alors il leur confie son sentiment. La peine de mort, je suis pour, bien sûr. Professionnellement, l'argument tient, c'est vrai. Ça vous fait quelque chose, lui demandent les journalistes, quand vous leur coupez la tête ? Pas du tout. Vous croyez que ça leur fait quelque chose, eux, quand ils tuent des enfants ? Non, jusqu'au bout, ils ne regrettent rien. Je les connais. Les journalistes lui font remarquer qu'il n'a pas beaucoup de temps pour les connaître, les condamner à mort. Marcel Chevalier se vantait en effet de les tuer en 7 secondes. Alors il reprend, bougon. « Oh, moi vous savez, je ne suis qu'un instrument, j'obéis aux ordres. » Le bourreau lit le Figaro. Et ça tombe bien d'ailleurs, le journal annonce fièrement les résultats d'un sondage, 62% des Français sont pour la peine de mort. L'avocat Georges Kijman, partisan et courtisan de François Mitterrand, réagit sur France Inter.
Quelqu'un qui répond à un sondage, c'est quelqu'un pour qui le problème de la peine de mort est abstrait. Il n'imagine pas un seul instant que lui ou des membres de sa famille pourraient s'identifier avec les auteurs d'un crime. Lorsque cette personne qui s'est déclarée favorable à la peine de mort devient un juré d'assises, les choses sont déjà beaucoup plus compliquées. Les peines de mort sont encourues dans des dizaines et des dizaines d'affaires chaque année et elles sont très rarement prononcées. Pourquoi ? Parce qu'un sondé qui est devenu un juré est tout d'un coup en face d'un criminel qui, bien sûr, lui est très éloigné par l'horreur du crime qu'il a commis, mais qui, malgré tout, lui ressemble comme un frère, car c'est un homme lui aussi. Et au fur et à mesure que les heures du débat s'écoulent, eh bien, le juré sent cette proximité qu'il conserve avec le criminel et il hésite à prononcer la peine de mort.
Tous les sondages des dernières années montrent qu'une majorité de Français sont pour la peine de mort. Certains considèrent que les pires criminels ne méritent que ça. D'autres qu'il est trop risqué de les laisser ressortir de prison. Vivants, en tout cas. D'autres encore calculent combien coûterait leur détention de très longue durée. De quoi laisser rêver ou rêveur le brave ouvrier qui travaille à l'usine, écrit l'Aurore, par exemple, en ce 17 septembre. Et parmi cette majorité, il y a une femme décidée à ne jamais changer d'avis. Elle s'appelle Germaine Crapier. Son fils et sa belle-fille ont été assassinés 3 ans plus tôt. L'assassin a été condamné à la peine capitale, mais il n'a pas été exécuté, François Mitterrand ayant promis de gracier les condamnés à mort. Il est 11h, en ce jeudi 17 septembre, quand Bruno Frappa, journaliste au Monde, sonne à la porte de Germaine Crapier au dernier étage d'un HLM de Bagneux. Elle a la soixantaine, elle est avec son petit-fils de 17 ans qui a perdu ses deux parents. Celui qui tue par le glaive périra par le glaive, dit la grand-mère. Ils n'ont qu'à lire la Bible. Cette femme se bat pour que l'assassin de son fils soit guillotiné. Ils peuvent toujours abolir la peine de mort, poursuit-elle. Pour moi, elle ne sera jamais abolie. Et la perpétuité, lui demande le journaliste. C'est l'histoire de 5 ans, la perpétuité. Vous savez, ils sortent pour tuer de nouveau. Bien. Et si c'était sans remise de peine, insiste le journaliste. Ah là, d'accord, répond la femme. Mais à condition qu'on les prive de tout plaisir. Par exemple, celui de fumer. Son petit-fils prend le relais d'une voix douce. La douleur ne peut pas s'atténuer. Je suis et je serai toujours pour la peine de mort. Et Germaine Crapier ne le sait pas, mais ce jour-là, la mère de l'assassin répond aussi à l'entretien. Pour la croix. Souvent, dit cette femme, je me dis, si mon fils était exécuté, est-ce que ma douleur allégerait la leur? Je suis bien sûr que non. Non, je ne suis pas pour la peine de mort. Plus aujourd'hui, parce qu'on n'a pas le droit. Alors que cette femme conclut son entretien et que Germaine Crapier raccompagne la journaliste du Monde à la porte, devant les grilles de l'Assemblée, une foule attend patiemment. Comme on ferait la queue pour aller au cinéma. Antenne 2 interroge quelques-unes de ces personnes.
Je suis pour la peine de mort, si ça me touchait de près. À froid, non, effectivement, c'est pas très sain. Mais par contre, je suis pour un débat sur la peine de mort, alors que les gens qui tuent n'en débattent pas tellement. Et je suis contre les critères d'appréciation de la peine de mort. Le crime particulièrement horrible, tous les crimes sont horribles, à mon avis.
Moi, je trouve qu'on ne condamne pas suffisamment les assassins.
Donc vous êtes pour le maintien de la peine de mort?
Oui, parce qu'on les condamne à 25 ans, 30 ans, et au bout de 15 ans, 20 ans, ils sortent.
La présentation du projet de loi est prévue pour 16h. Robert Badinter est accompagné de sa femme, Elisabeth Badinter, et de son plus proche collaborateur, François Binet. Elle et lui l'ont toujours accompagné au procès. Et ce jour-là, il est naturel qu'il soit là. Et lorsqu'ils entrent, c'est tout l'hémicycle qui murmure. Dans les travées, presque tous les députés sont là. Communistes, socialistes, UDF et RPR. Au-dessus d'eux, au balcon, entre de grandes colonnes blanches, les tribunes du public sont pleines. Et comme au théâtre, les visiteurs assis au premier rang se penchent sur la rambarde bordée de coussinets pour voir, en dessous d'eux, les parlementaires s'agiter. Elisabeth Badinter et François Binet rejoignent les tribunes. Robert, lui, s'assied sur le banc des ministres. Puis une sonnette retentit. Tout le monde gagne sa place, l'Assemblée se met en ordre. C'est comme aux assises, se dit Badinter. Et puis, on entend un roulement de tambour. Christian Nucci, le président de séance, monte au perchoir. L'Assemblée se tait. L'examen du projet de loi portant abolition de la peine de mort peut commencer. Et comme on appelle un témoin à la barre, Christian Nucci invite à la tribune le rapporteur de la loi, un jeune député socialiste du nom de Raymond Forny. Il s'avance, monte les quelques marches qui mènent au pupitre, juste en dessous du perchoir du président, et entame devant l'hémicycle les 2 journées d'examen du projet de loi.
Jamais nos discussions n'auront revêtu un tel caractère exceptionnel. Jamais nous n'aurons senti d'aussi près le frisson de l'histoire. Rarement nous n'aurons mesuré le poids de notre responsabilité. Et pourtant, tant de grandes voix se sont élevées ici. Tant d'écrits admirables nous sont parvenus. Nous avons la certitude, mes chers collègues, qu'à présent, tout a été dit et qu'il nous appartient de conclure.
Le frisson de l'histoire, comme l'appelle Forni, est diffusé en direct et en intégralité à la télé. Alors, peu après 16 heures, les Français devant leur poste entendent le président de séance remercier Forni et appeler à la tribune l'intervenant suivant. La parole est à monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Alors, Robert Badinter se lève, il croise Forni qui regagne sa place, il lui lance un sourire. Il monte les marches, parvient à la tribune, ajuste les micros du pupitre. Il a la gorge sèche et le sourcil broussailleux. Il regarde l'assemblée et se lance.
La cigarette sans cravate qu'on fume à l'aube démocrate et le remords des coups de jatte avec la peur qui tend la patte. Le ministère de ce prêtre et la pitié à la fenêtre et le client qui n'a peut-être ni Dieu ni maître. Le fardeau blême qu'on emballe comme un paquet vers les étoiles qui tombe froide sur la dalle. Et cette rose sans pétale, cet avocat à la serviette, cette aube qui met la voilette pour des larmes qui n'ont peut-être ces bois que l'on dit de justice et qui poussent dans les supplices et pour meubler le sacrifice avec le sapin de service. Cette procédure qui guette ceux que la société rejette sous prétexte qu'ils n'ont peut-être ni Dieu ni maître.
France Inter. Affaires sensibles.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, j'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France.
Robert Badinter n'est pas un habitué de l'Assemblée. Il plaide l'abolition depuis des années dans les cours d'assises et les médias. Mais il le sait, on ne parle pas de la même façon au Parlement. Quelques jours plus tôt, il a donc sollicité le conseil d'un homme qui, lui, est un habitué de l'Assemblée. Il a été député, sénateur, ministre. Cet homme, c'est François Mitterrand qui lui a donné ce conseil. Méfiez-vous seulement de vous-même. Vous êtes un passionné. Ce n'est pas de mise au Parlement. Et surtout, rappelez-vous toujours que dans une Assemblée, les parlementaires sont chez eux. Comme ministre, vous êtes leur invité. Donc, ils peuvent vous brancarder, vous attaquer, vous lancer mille flèches. Même transformé en Saint-Sébastien, ne vous laissez jamais aller répondre sur le même ton. En revanche, on vous pardonnera tout si vous savez faire rire au détriment de votre adversaire. Mais jamais, jamais de colère, jamais de fureur. Muni de ce viatique présidentiel, le ministre s'en est allé écrire son discours. Ce texte, racontera-t-il plus tard, ne me coûta ni effort ni angoisse. Les phrases s'alignaient presque spontanément sous la plume.
La France est grande, parce que elle a été la première en Europe à abolir la torture. Et il y avait à cet instant, dans le pays, des esprits précautionneux qui disaient que sans la torture, la justice française serait désarmée, que sans la torture, les bons sujets seraient livrés aux citoyens. La France a été parmi les premiers à abolir l'esclavage, ce crime qui déshonore encore l'humanité. Il se trouve que la France aura été, en dépit de tant d'efforts courageux, un des derniers, presque le dernier, et je baisse la voix pour le dire, en Europe occidentale, dont nous avons été le foyer et le pôle si souvent, à abolir la peine de mort.
Tous les députés écoutent avec attention le discours du garde des Sceaux. Certains le haïssent. Ils le détestaient avocat, ils l'exècrent ministre. Alors son discours est entrecoupé d'invectives. Il parle depuis plusieurs minutes. Il rappelle que l'abolition est un combat engagé aux prémices de la République en 1791 à l'Assemblée constituante. Quand une voix s'élève des bancs des députés, celle d'Albert Prochard, un UDF qui dit « On sait ce que ça a coûté en Vendée. Silence les chouans, rétorque-t-on, côté socialiste. Même si les Vendéens ne sont pas des chouans, mais c'est l'intention qui compte. » Pendant que le président de l'Assemblée, lui, tape toujours du marteau. Puis Robert Badinter salue la mémoire de Jean Jaurès, qui en 1908 avait soutenu l'abolition à la même tribune. « Il est trop commode, avait-il dit, de trancher le problème avec un couperet, de faire tomber la tête dans un panier et de s'imaginer qu'on en a fini. C'est trop commode de créer ainsi un abîme entre les coupables et les innocents. Nous sommes tous solidaires, de tous les hommes, même dans le crime. » À l'évocation même du nom de Jaurès, la droite a une première crise d'urticaire. « Quoi ?» reprend Badinter rageur. « Il y a des noms qui vous gênent encore ?»« Provocateur !» lui répond Michel Noir, député RPR. Le président redonne du marteau. « Messieurs de l'opposition, dit-il, je vous en prie, Jaurès appartient à l'histoire de notre pays. » Les bancs à gauche applaudissent, pendant qu'à droite on lance, mais pas Badinter. À l'Assemblée, en ce 17 septembre 1981, c'est l'acte final de deux siècles de débats. Et de la première constituante jusqu'à Jaurès, les grands acteurs de ce combat sont discutés comme s'ils étaient encore là. Parce que 190 ans après la constituante et 73 ans après Jaurès, les arguments n'ont pas changé.
Ceux qui veulent une justice qui tue, ceux-là sont animés par une double conviction. La première est qu'il existe des hommes totalement coupables, c'est-à-dire des hommes totalement responsables de leurs actes. Et la deuxième, c'est qu'il peut y avoir une justice sûre de son infaillibilité, au point de dire que celui-là peut vivre et que celui-là doit mourir. Eh bien, arrivé à cet âge de ma vie, l'une et l'autre affirmation me paraissent également erronées. Aussi terribles, aussi odieux que soient leurs actes, il n'est point d'homme en cette terre dont la culpabilité soit totale et dont il faille pour toujours désespérer.
Dans la tête du garde des Sceaux, ces journées de septembre 81 déterrent le spectre du 28 novembre 72. Le jour où, à la prison de la Santé, à 4h du matin, en catimini tant on a honte de ce qu'on fait, Roger Bontemps a été guillotiné avec son complice, Claude Buffet. Alors Badinter s'est juré que plus jamais il n'accepterait une justice meurtrière. Ensuite, il a été l'avocat de 6 hommes accusés de meurtre. Et chaque procès s'est transformé en tribune. Le plus célèbre, c'est celui de Patrick Henry en 1977. Cet homme avait tué un enfant. Il était l'incarnation du diable. Pendant l'enquête, il avait déclaré devant les caméras de télé « Celui qui a tué le gosse, il mérite la peine de mort. » Alors, indéfendable ? Jamais. Un un matin, dans les couloirs de France Inter, après le 7-9, en 2008 je crois, Robert Badinter m'avait confié, s'imitant lui-même avec les gestes et le ton. Je crois qu'en cour d'assises, ma plaidoirie pouvait être une épreuve pour les jurés, car je m'approchais d'eux pour argumenter, à quelques centimètres de leur visage. Je leur ai dit lors du procès de Patrick Henry, « Si vous croyez en la peine de mort, c'est le moment. En revanche, si vous n'y croyez pas, c'est aussi le moment. » Si vous décidez de tuer cet homme, c'est chacun de vous que je verrai au petit matin, à l'aube, et je me dirai que c'est vous, et vous seul, qui avez décidé de le tuer. Fin de citation. Convaincus et impressionnés également par la force rhétorique de l'avocat, les jurés ont décidé de ne pas condamner Patrick Henry à la mort, mais à la réclusion criminelle à perpétuité. Après cette affaire, Badinter a sauvé la vie de 5 autres meurtriers. À leur droite et à l'extrême droite, il est devenu le complice des assassins. Maître Badinter, écrit Minute, ne se contente pas de défendre les assassins et les voleurs, il les aime. L'association Légitime Défense a même proposé d'ériger une statue de Mérine devant le ministère de la Justice. Mais en ce 17 septembre 81, c'est l'accomplissement du combat de Badinter. Dans un discours de presque une heure et demie, après avoir démonté un à un tous les arguments en faveur de la peine de mort, il conclut.
Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. Demain, grâce à vous, il n'y aura plus, pour notre honte commune, des exécutions furtives à l'aube, sous le dais noir, dans les prisons françaises. Demain, les pages sanglantes de notre justice seront tournées. À cet instant, j'ai le sentiment, plus qu'à aucun autre, d'assumer, au sens ancien, au sens noble, le plus noble qui soit, le mot de ministère, c'est le service. J'ai le sentiment de l'assumer. Demain, c'est l'abolition, législateur français. De tout mon cœur, je vous remercie.
Robert Badinter quitte la tribune sous les applaudissements du public et des députés de gauche qui tous se sont levés. Et sous les applaudissements également de quelques députés de droite qui voteront l'abolition de la peine de mort, entraînés par Jacques Chirac. Dans les rangs des députés UDF, alors que le garde des Sceaux retourne sur le banc des ministres, le député Marcel Bigard, un général, il était en Indochine et en Algérie, où on l'accuse d'avoir pratiqué la torture, se tourne vers ses voisins. Celui-là, dit-il, c'est un fortiche. Quand les Viet m'ont condamné à mort en Indochine, j'aurais bien aimé l'avoir comme avocat. Tout général qu'il est, il n'était peut-être pas assez armé pour comprendre le discours de Robert Badinter, qui n'était pas une plaidoirie, justement. C'était, dit le ministre de la Justice, une sorte d'ultime appel, au-delà de l'hémicycle, à libérer notre justice de l'emprise de la mort. Celui qui s'adressait ce jour-là aux députés n'était ni le ministre ni l'avocat, mais le militant passionné d'une grande cause qui triomphait enfin. Voilà, la guillotine vit ses derniers instants. France Inter fait de l'événement une émission spéciale à 19h.
Qu'on ne s'y trompe pas, ça n'est pas un débat politique qui s'est ouvert cet après-midi à l'Assemblée, c'est un débat de conscience. La question posée aux députés dépasse largement les problèmes d'étiquette ou de clan. Il s'agit de savoir si on va continuer en France à couper les criminels en deux. Plus qu'un débat, c'est un procès avec son décor, inhabituel mais bien planté, salle d'audience, l'hémicycle du Palais Bourbon, dans le box des accusés, la guillotine, l'avocat général Robert Badinter, avocat de la Défense, les quelques députés qui demeurent partisans de la peine de mort, combien sont-ils? C'est le seul mystère, car l'issue du vote ne fait pas l'ombre d'un doute. Demain soir, la peine de mort sera abolie.
Après le discours de Robert Badinter, le président de l'Assemblée, l'homme au marteau, appelle à la tribune Pascal Clément, député UDF. Lui est pour la peine de mort. Et c'est lui qui pose la question préalable, autrement dit, la proposition qui permet, si elle est adoptée, de refuser immédiatement la loi sans même l'avoir débattue. Pour Pascal Clément, l'abolition ne peut pas être débattue parce qu'elle doit être adoptée par référendum. Oh, le calcul est simple. La majorité sociologique ne correspondant pas à la majorité politique sur la question de la peine de mort, le non sortait favori. Mais ce n'est pas un député de la majorité qui demande à ce que cette question soit rejetée. Non, c'est un député de droite. Et c'est Philippe Séguin qui monte à son tour à la tribune.
Surtout, mes chers collègues, surtout évitons de chercher à tout prix à désigner des vainqueurs et des vaincus. Ayons le courage, les uns et les autres, de reconnaître que la générosité, la noblesse de sentiment ne sont pas le privilège de l'un ou l'autre camp. Que le respect de la vie, le souci de la paix sociale sont des préoccupations dont on peut bien admettre sans déchoir qu'elles sont partagées. Les abolitionnistes ne sont pas des irresponsables et leurs adversaires ne sont pas des monstres.
Séguin, lui aussi, est un abolitionniste. D'ailleurs, ni le RPR ni l'UDF n'avaient donné de consigne de vote. Non, les députés pouvaient voter selon leur conscience, comme en 1975 lors de la loi sur l'avortement. Et c'est rarissime. Et parmi l'opposition, certains se sont exprimés pour l'abolition. C'est le cas de Jacques Chirac, de François Fillon et de Jacques Toubon notamment. La soirée est bien entamée, les interventions de 49 députés sont prévues, ça fait 8 heures d'audience. 4 pour la majorité, 4 pour l'opposition. Et les uns après les autres, défenseurs et pourfendeurs de l'abolition se succèdent à la tribune. C'est la gauche qui a le premier mot. À l'UDF, le député Gilbert Grandier ne peut retenir qu'un... que messieurs, les assassins commencent. Les téléspectateurs les plus insomniaques assistent alors, jusque tard dans la nuit, au défilé des abolitionnistes et des partisans de la peine de mort. Et les victimes martèlent les opposants. Et la peine de substitution et les meurtres d'enfants. Il est paradoxal que le seul métier qui ne comporte pas de risque d'accident mortel soit celui des assassins, dit Roland Nugesser, au RPR, par exemple. À 2h du matin, le président suspend la séance dans un hémicycle presque vide. Suite des débats, le lendemain à 10h. France Inter fait le point dans sa matinale.
Bonjour, la peine de mort abolie, c'est donc pour cet après-midi, du moins chez les députés. Les députés n'ont pas beaucoup dormi, et vous non plus d'ailleurs, si vous les avez regardés hier soir sur FR3, une véritable discussion marathon. Le point sur place avec Michel Lemerle.
Les passions étaient un peu retombées ce matin au Palais Bourbon et les bancs étaient plutôt clairsemés, aussi bien d'ailleurs du côté du public que des députés. La discussion générale est pratiquement terminée, il ne reste plus que quelques orateurs encore inscrits dans ce débat. Ce sera ensuite la discussion des amendements, qui sera surtout centrée autour de ceux qui proposent des peines de remplacement à la peine de mort, qui, personne n'en doute, sera abolie. Il sera en tout cas intéressant tout à l'heure d'examiner dans le détail la répartition des voix.
Le vendredi 18 septembre, les interventions reprennent jusqu'à 16h30. Au bout du compte, 49 orateurs sont passés et 27 amendements ont été déposés. La plupart demandent une peine de substitution ou que la peine de mort soit conservée pour certains crimes, ce qui dénaturerait totalement l'esprit de la loi, ce que la droite a bien du mal à comprendre. Elle qui propose aussi que la peine capitale ne soit abolie que pour quelques années. Mais le gouvernement l'avait annoncé, la loi ne souffrira pas d'amendement ni d'exception. L'article premier est simple, la peine de mort est abolie, point barre. Être fidèle à la pensée de Victor Hugo en 1848, voilà ce que veut le garde des Sceaux. L'abolition doit être pure, simple et définitive. Alors tous les amendements sont rejetés et il est temps de voter. D'abord pour chacun des articles, puis pour l'ensemble du projet de loi. Pierre Joxe et Jacques Toubon, président du groupe PS et RPR, formulent la même demande, que le scrutin soit public. À la tribune, il y a un petit boîtier. Ceux qui sont pour l'abolition appuient sur le bouton marqué de la lettre P. Ceux qui sont contre appuient sur le bouton C. Et ceux qui s'abstiennent appuient sur le bouton A. Pour le symbole, le groupe PS a laissé la présidence à Philippe Séguin, vice-président de l'Assemblée. Et par ordre alphabétique, le député des Vosges appelle ses collègues à descendre de leur travée et à monter à la tribune pour voter, là, juste en face de Robert Badinter, qui le regarde passer. Alors, les parlementaires se succèdent lentement. et après le dernier d'entre eux, Jean Succarelli, député PS de Corse. Une sonnerie retentit, le scrutin est clos. Philippe Séguin prend la parole.
Personne ne demande plus à voter. Je répète, personne ne demande plus à voter. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin sur l'ensemble du projet de loi portant abolition de la peine de mort. Nombre de votants, 486. Suffrages exprimés, 480. Majorité absolue, 241. Contre, 117. Pour, 363. L'Assemblée nationale a adopté.
À 19h28, ce vendredi 18 septembre 1981, le panneau électronique au-dessus du perchoir affiche les résultats. Robert Badinter les regarde fixement. La loi est adoptée. Le ministre de la Justice sourit. On se presse pour lui serrer la main, pour le féliciter. Le scrutin était joué d'avance, mais cela n'empêche pas l'émotion. Parmi les députés RPR et UDF, 31 ont voté l'abolition. Michel Barnier, Jacques Chirac, François Fillon, entre autres. Robert Badinter se tourne alors vers son directeur de cabinet, André Braunschweig. Il l'embrasse, émeut, puis il croise Philippe Séguin dans les couloirs, il se serre la main de longues secondes. Elisabeth Badinter et François Binet retrouvent le héros du jour et pour toujours. Ils sortent ensemble par les jardins de l'Assemblée. Il faisait doux, écrit Robert Badinter. C'était une belle soirée de septembre.
France Inter. Affaire sensible, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, Robert Badinter, l'abolition de la peine de mort, notre invité, François V. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le rédacteur en chef du magazine Légende, dont le numéro 20 est consacré à Robert Badinter, précisément. Alors, l'œuvre est tellement gigantesque de Robert Badinter, par quoi on commence quand on décide de consacrer un numéro Légende? Par quoi on commence?
En fait, on commence par le Panthéon. Ouais. On commence par ces grands hommes, ces grandes figures qui ont inspiré Badinter. Et il se trouve qu'on n'a pas à chercher bien loin parce que c'était un fervent lecteur de Zola, un grand admirateur de Victor Hugo, et il a écrit avec sa femme Elisabeth une très belle biographie de Condorcet. Donc ah, déjà, oui. On a une jolie palette. On peut ajouter, après Jaurès, on peut ajouter d'autres grandes personnalités. Mais on est parti de cette idée-là, de dire que finalement, il allait les rejoindre.
Il était dans cette filiation-là, quoi.
Complètement. Il s'en réclame. Et toute sa vie, en fait, ces personnages-là vont le guider. C'est assez exceptionnel, en fait, chez un intellectuel. Ça donne une grande cohérence à son action. Et Zola, c'est vraiment aussi une filiation avec son père, parce que finalement, son père, il va s'ingénier à ce que ses enfants qui viennent, sa famille vient de Bessarabie, ils arrivent à Paris. Pas question de parler yiddish, on va parler français et on va étudier le français. Et le père, il se perfectionne en lisant Zola, en lisant Victor Hugo. Il transmet ça à ses fils.
Alors, on parle beaucoup de conscience morale concernant Robert Badinter. On en a une autre dans la politique française contemporaine, c'est Pierre Mendès France. Hein. Qu'est-ce que c'est de conscience morale?
Disons, pour dire les choses très simplement, c'est une voix qui va s'exprimer pour... incarner une éthique, une exigence morale. Et dans le cas de Robert Badinter, l'illustration immédiate, c'est l'abolition de la peine de mort. C'est-à-dire que là, on voit bien la conscience morale en action. De quel droit on va ôter la vie à quelqu'un? Est-ce qu'il n'a pas une chance de se racheter par la suite? On se souvient quand même de Philippe Maurice qui est condamné à mort et puis qui est gracié et qui étudie l'histoire en prison, devient docteur en histoire et à sa sortie de prison, il est chercheur au CNRS. Est-ce que c'est pas une démonstration éclatante qu'un rachat est possible, qu'il faut avoir foi en l'humain, foi dans la vie?
Alors, Robert Badinter, on va parler de l'abolition de la peine de mort. Parlons de l'avocat. Moi, je me souviens qu'il m'avait confié. Il accusait la peine de mort et il allait vers les jurés. Il s'avançait physiquement presque. Il me disait, je les agressais presque. Je leur disais, vous imaginez dans votre conscience jusqu'à la fin de votre vie, si vous prononcez la peine de mort, vous aurez ça tout le temps, tout le temps.
comme vous le dites, il ne s'intéresse pas au cas, il va s'intéresser effectivement au principe. Et il y a deux choses, je crois, qui sont très fortes chez lui dans ses plaidoiries, c'est l'improvisation. Il a quelques notes, il a beaucoup travaillé le dossier, il en est imprégné et il laisse libre cours à ses émotions. Et puis la deuxième chose, effectivement, c'est de prendre chaque juré un par un, face à face, d'être dans une sorte d'intimité avec chacun et il ne regarde pas le jury comme ça, de façon indifférenciée. Il s'adresse vraiment aux gens et c'est effectivement très fort parce qu'il a un pouvoir de conviction. Il a, quand il plaide pour ces affaires-là, il a une sorte de rage qui l'habite.
Alors on continue dans les confidences, quand nous l'avons invité dans Affaires Sensibles pour l'affaire Buffet-Bontemps. Il m'a dit, oui mais je ne veux pas parler de l'abolition de la peine de mort, je veux parler de ce procès-là, Buffet-Bontemps. Et je lui ai dit, mais forcément vous allez parler de l'abolition de la peine de mort, c'est ce qui s'est passé, bref. Bontemps, la défense de Bontemps, ça a été le tournant.
C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il nous raconte dans ce numéro de légende. Et effectivement, je pense qu'on peut se mettre aisément à sa place. Là, il est vraiment dans un cas de figure où il est totalement convaincu que Bontemps n'a pas tué et la justice va s'arroger le droit de le tuer. Donc, une justice qui tue un homme qui n'a pas tué. C'est vrai qu'il espère jusqu'au bout obtenir la grâce. Il ne réussit pas à convaincre Georges Pompidou. Et donc, à partir de là, il se dit, il faut absolument que je mène le combat jusqu'au bout. C'est pas possible. C'est un revers personnel. Il en est meurtri, mais au très fond.
Oui. Dans une interview qu'il a donnée en 2021, Badinter disait que la cour d'assises s'apprêtait à juger Patrick Henry, l'assassin d'enfants. Alors ça, c'est sa victoire. Aux assises, disait-il, j'ai délibérément substitué au procès de Patrick Henry le procès de la peine de mort. On en revient à cette sorte de défense de rupture. Et ça a été un fil conducteur pour lui.
Ça a été un fil conducteur. Il a peaufiné ses arguments jusqu'au fameux discours qu'il prononce pour l'abolition de la peine de mort, où c'est vraiment, il faut le lire et le relire. Il y a la possibilité de le faire dans ce numéro de légende. Tous les arguments des défenseurs de la peine de mort, il les passe au crible un par un et il démontre rationnellement, pas à pas, pourquoi c'est une mesure qui est inutile, ça ne va pas faire peur aux criminels, ça ne va pas permettre à la société d'aller mieux. Et en revanche, il y a le risque que la justice n'étant pas infaillible, qu'on se trompe. Donc il va, durant chacune de ses plaidoiries, il va rajouter, si vous voulez, un peu une couche supplémentaire et c'est les plaidoiries qui vont durer 3 heures.
Et c'est la construction d'un discours politique à travers ces plaidoiries, finalement.
Tout à fait. Et puis alors après, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a réussi à convaincre aussi autour de lui. C'est-à-dire que son ami Mitterrand, eh bien, ils ont cheminé ensemble, tous les deux, avocats, et ils se sont fait beaucoup de confidences. C'est dans le programme commun de gouvernement de 72. Ça va être dans les senties propositions du candidat socialiste. Et ça va être un engagement personnel de Mitterrand dans cette émission de télévision où on lui demande s'il va abolir la peine de mort, et il s'y engage très très fermement, alors que Badinter craignait qu'il joue un peu sur un plan un peu équivoque, ou qu'il prenne un engagement qui n'en soit pas un. Non, il est très résolu, il sait que c'est très impopulaire, et il y va à fond.
Et on en arrive à encore une troisième confidence de Robert Badinter, qui m'expliquait que François Mitterrand avait la conviction qu'en disant « je vais abolir la peine de mort », alors que la majorité sociologique était contre l'abolition, il apparaîtrait comme un homme sincère et courageux.
Oui, et puis là, on a rencontré Jacques Attali pour faire ce numéro-là, il nous a redit qu'il pensait que juste avant l'émission, les sondages lui sont défavorables, en gros 48-52. Après cette prise de position, c'est 52-48, ça s'est inversé. Donc ça lui a servi.
France Inter. Affaires sensibles.
François V, vous intitulez l'un de vos dossiers dans Légende consacrée à Robert Badinter, Les 7 vies. Quelles sont les 7 vies de Robert Badinter?
Alors, on va essayer d'arriver au bon chiffre. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que dans une première partie de sa vie, il y a cette enfance qui est extrêmement heureuse, dans une famille en pleine ascension sociale, avec un enfant qui réussit très très bien à l'école. Donc ça, c'est vraiment l'enfance idyllique. Et puis après, il y a une jeunesse qui va être alors fracassée par la Seconde Guerre mondiale, avec la barbarie nazie, avec ses proches qui sont déportés, avec lui qui traverse la France, qui se trouve finalement à Cognin, qui va être à côté de Chambéry, où ils vont trouver un refuge. Donc ça, c'est vraiment le socle de souffrance sur lequel il va se bâtir, hein, et sa quête en permanence de la justice. Après, il y a une autre période, qui est la période où il est étudiant. Bizarrement, il est étudiant en sociologie d'abord, avant de se mettre à l'économie politique et au droit. Et c'est une belle année aussi qui passe à l'université aux États-Unis. Et après, il y a cette découverte du métier d'avocat. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas une vocation, en fait, avocat. Il a découvert le droit, il est très attaché à la justice, il veut devenir professeur de droit. Le métier d'avocat, on pourrait dire que c'est un choix un peu de raison. Mmh. Et puis, ça va devenir un choix de passion, parce qu'il tombe sur un Henri Torres, qui est un des grands avocats de l'époque, et qui va lui apprendre le métier d'avocat à l'ancienne. C'est un avocat qui n'écrit pas, il fait ses discours, il rôde ses plaidoiries dans les restaurants, il fait bombance, c'est un homme qui mord la vie à pleines dents. C'est la période un peu hédoniste de Robert Badinter. Il va être avocat d'affaires, il va fréquenter le milieu de la presse, du cinéma. Donc ça, c'est une toute autre vie. Et puis après, il y a encore une vie qui est la vie politique, parce que ben, il est un fervent admirateur de Mendès France. Sa rencontre avec Mitterrand va être formidable, parce que là, il trouve enfin quelqu'un qui a un idéal et surtout une ambition, une envie de faire. Il sent qu'il veut prendre le pouvoir et qu'il va pouvoir le prendre. Et puis après, il y a une très très belle carrière de garde des Sceaux. Hein. C'est sans doute un des gardes des Sceaux qui a le plus de réformes à son actif. Et là, ça nous mène jusqu'en 86. Et en 86, ben, il y a beaucoup de gens qui s'arrêterait, et ben lui non, il continue 9 ans au Conseil constitutionnel ouais. Comme président, et ça le mène donc 9 ans plus tard, bon ben voilà, sénateur socialiste, et en 2011, c'est l'heure de la retraite, mais non, il continue à travailler, à écrire, à faire des interventions et tout. Vous voyez, on n'est pas loin des 7, je pense, voilà. Des vies successives.
Oui, alors la 6e vie, c'est la vie de ministre. Comment l'a-t-il vécu? Parce que ça a été difficile. Il était considéré par la France réactionnaire comme le permissif, quoi. Le gouvernement de gauche, permissif, qui s'assoit sur la sécurité. Ça a été violent, quand même.
Ça a été très, très violent. Ça a été des campagnes souvent haineuses. Il y a eu des manifestations jusque...
Place Vendôme.
Place Vendôme, avec... Jean-Marie Le Pen, qui était là. Et donc, il a été vraiment en but à une campagne très, très dure. Et alors, si vous voulez, ce qu'il a fait, l'action qu'il a fait en faveur des prisons, il l'a fait de façon assez discrète, mais il a quand même introduit la télévision en prison, il a réformé les parloirs, il a aboli le système de vêtements de prisonniers, qui était obligatoire. Il a fait plein de choses pour humaniser la prison, et on s'est mis à dire « Ah, mais Badinter, avec Badinter, la prison, c'est le Club Med. Oui. » Alors que tout simplement, il voulait simplement que ce soit une dignité et un moment de possibilité de réinsertion, de travail sur soi, de formation, pour que après la prison, il y ait une autre vie. Et c'est très difficile à faire passer, en fait, dans l'opinion publique.
Robert Badinter, l'humanisme fait homme.
Absolument.
Merci infiniment, François Vey.
Merci à vous.
Légende, Robert Badinter, au Panthéon, numéro 20. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'abolition de la peine de mort en France, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Sybille Clamins et Maxime Goudard.